Difficile de prendre la parole après Mme Colmany. Elle vous a décrit la situation à l'intérieur de la Syrie. Et je crois que depuis ce matin, et c'est la construction de ce colloque par le professeur Kervédan, je le remercie, nous voyons que les différentes interventions et les différents thèmes finalement se répondent les uns les autres dans un effet miroir. Avec M. Kapila, avait évoqué la responsabilité de te protéger. Le thème de ce matin, c'était la protection des populations en situation de conflit, de post-conflit. Et la notion de no man's land me paraît parfaitement s'appliquer au conflit syrien. Et ce qu'aussi avait évoqué en conclusion de la matinée Pierre Gentil avec les soins de santé en danger, Pierre Salignon vous a tout à fait dit ce qu'il en était, effectivement, de la situation des personnels médicaux, des personnels de santé en Syrie. Donc je voudrais, ça a d'ailleurs été évoqué déjà par les deux précédents intervenants, on va m'interroger avec vous sur les responsabilités aussi de la communauté internationale, cela vient d'être dit, mais les responsabilités aussi qui sont celles des acteurs de l'aide humanitaire et celles qu'ils assument et qu'il faudrait peut-être qu'ils assument encore plus dans cette situation de la population civile syrienne. Et de ce point de vue, moi, je suis assez frappé par le fait que, sans vouloir faire des parallèles historiques qui sont toujours délicats, ça rappelle effectivement la guerre froide. Cela a été dit tout à l'heure par Mme Colmany, j'en dirai un mot, mais ça nous rappelle, sur un plan historique, de ce que nous en avons lu, les années 30 et le contexte des années 30. Alors on parle souvent beaucoup en Europe en ce moment des années 30, essentiellement par rapport à la montée des mouvements populistes, et on évoque très peu le contexte international des années 30 et la démission qui a été celle aussi de ce qu'était la communauté internationale de l'époque face à la montée des totalitarismes et face aux agressions que qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale des régimes totalitaires ou autoritaires. Et de ce point de vue, la situation tragique, je crois qu'on n'a pas de terme, en fait, si je puis me permettre, pour définir la situation de la population en Syrie et hors Syrie, la situation des Syriens. C'est une catastrophe à tout point de vue, vous l'avez dit. C'est un désastre, on emploie les termes de tragédie, mais les mots probablement sont même insuffisants. Et ils sont très insuffisants pour décrire les réalités telles qu'elles nous remontent, effectivement, par les réseaux sociaux, telles qu'elles nous remontent par les Syriens, telles qu'elles nous remontent du terrain. Et de ce point de vue, la guerre civile en Syrie, et je suis désolé d'être en désaccord avec vous, Mme Colmany, mais pour des organisations humanitaires, il n'y a pas d'autre, effectivement, moyen de qualifier, en tout cas aujourd'hui, pas évidemment au début, mais aujourd'hui, et particulièrement depuis un peu plus d'un an, cette situation que de conflit armé non international, même si ça a des effets pervers que vous avez évoqués, il n'y a pas d'autre qualification que celle-là aujourd'hui. Et le bilan humain de ce conflit, il est, je ne vais pas effectivement insister là-dessus, mais le bilan humain, il est effectivement tout à fait catastrophique. On évoque le chiffre quasiment 100 000 morts, et beaucoup de sources nous disent que c'est un chiffre minimum, ce qui veut dire aussi des dizaines de milliers, si ce n'est plus, de blessés. On estime aujourd'hui que quasiment toute la population syrienne, pratiquement 19 millions de personnes, sauf erreur, est à un degré ou un autre affectée par par le conflit. Et le nombre de réfugiés ne cesse d'augmenter de jour en jour. On estime, de ce point de vue, qu'actuellement, il y a environ 200 000 réfugiés qui, mensuellement, 200 000 personnes quittent la Syrie pour se réfugier dans les pays voisins. La Jordanie en compte actuellement pratiquement 500 000, et on estime que si on poursuit sur ces tendances, à la fin de l'année, elle en aura, donc dans 6 mois, 1,5 million. Le Liban accueille aussi plusieurs centaines de milliers de réfugiés. D'ailleurs, ça a conduit le gouvernement libanais, qui avait toujours refusé, depuis la première guerre israélo-arabe, puis 48-49, d'ouvrir des camps de réfugiés sur son territoire, à finir plus ou moins par l'accepter, parce qu'il n'a plus la possibilité de gérer en quelque sorte ces flux. Il y a plusieurs centaines de milliers de réfugiés en Turquie aussi, et d'autres en Irak. Et dans ces chiffres de morts et de blessés, ce sont les civils qui payent un très lourd tribut et qui payent probablement le plus lourd tribut. Madame Khodmani et Pierre vous ont parlé également des atrocités, des massacres qui sont commis. De ce point de vue, figurez-vous qu'il y a une commission d'enquête sur la Syrie de l'ONU, que cette commission d'enquête, elle dépose des rapports tous les quelques mois, et que dans son dernier rapport, était intitulé « Des crimes qui offensent les consciences ». Donc il y a, de ce point de vue, une situation qui est quasiment hors norme depuis longtemps. Nous avons connu des crises, comme l'on dit dans notre jargon, avec les guillemets de rigueur, des crises humanitaires, à répétition. Celle-ci est une crise humanitaire majeure, et c'est probablement la crise humanitaire la plus importante du XXIe siècle, en termes en tout cas de conflits armés. Comme cela a été dit précédemment, elle ne cesse d'empirer. Et par bien les côtés, c'est pour ça que je faisais cette référence aux années 30, ça offre des analogies avec quelques événements de l'entre-deux-guerres mondiales. L'agression de l'Italie fasciste sur l'Éthiopie en 1935, vous avez, vis-à-vis de la population civile, eu des bombardements. Ce sont les premiers bombardements de terreur, c'est en Éthiopie, contre une ville d'Essier qui était totalement en bois avec des bombes incendiaires et qui a donc en quelques minutes brûlé avec des milliers de morts. L'utilisation d'armes chimiques, de gaz de combat contre les populations éthiopiennes. La guerre d'Espagne, qui est plus connue ici en Europe, avec les bombardements aussi et l'usage de la terreur contre les populations civiles avec les bombardements des villes. Et on le voit, le régime, et cela a été dit, le régime de Damas ne s'interdit rien, puisque après les armes légères, l'artillerie, les chars, l'aviation, les missiles Scud, il a donc le recours au moins ponctuel et, semble-t-il, en petite quantité à des armes chimiques, et maintenant avérées. En tout cas, cela a été, ces derniers jours, confirmé par plusieurs États. Avec les conséquences qui en découlent pour les combattants, mais, et cela a été dit, également pour les populations civiles. Et aussi, ce qui nous frappe, nous, humanitaires, et qui est une des particularités de ce conflit, c'est que, semble-t-il, il y a très peu de prisonniers. Il y en a quelques-uns, mais semble-t-il, très peu de prisonniers. Donc les affrontements sont d'une telle radicalisation des deux côtés que maintenant, il y a très peu, finalement, peu de prisonniers de guerre. Donc on peut s'interroger aussi légitimement sur, finalement, les textes internationaux, l'utilité dans ce type de situation, des textes internationaux, de droit international humanitaire, des stratégies qui ont été finement, mais bureaucratiquement aussi, élaborées par les Nations Unies, par l'Union européenne, par des États comme la France, de protection des civils en situation de conflit, lorsque on a, comme ici, une des parties, le régime de Damas, qui théoriquement a adhéré à ces normes, mais qui ne se soucie aucunement de leur respect. Des exactions aussi ont été commises à un moindre degré, semble-t-il, et sans caractère systématique. En tout cas, elles ont été documentées aussi de la part de certaines milices rebelles. Alors, cela a déjà été dit, et je n'insisterai pas sur ce point. Ce carnage, et d'ailleurs, on peut s'étonner aussi de la prudence sémantique que Mme Cohn-Mellier évoquait les médias. On peut s'étonner de la prudence sémantique. On euphémise beaucoup, me semble-t-il, sur ce qui se passe en Syrie. Et on peut, je crois qu'il ne faut pas hésiter à employer les termes d'atrocité, les termes de carnage, et même si, encore une fois, les mots sont insuffisants pour décrire la réalité de ce qui s'y passe. Ça ne cessera que lorsque des solutions politiques par la négociation, soit militaire par un basculement du rapport de force, soit par une combinaison des deux, auront été trouvées. Mais la question qui nous préoccupe, c'est que face à un pareil contexte de souffrance indescriptible et avec un terme de ces souffrances que malheureusement on ne voit pas, en tout cas à court terme, que faire et comment faire? Et la priorité absolue devrait au moins être une aide humanitaire d'un niveau bien plus élevé et massive et même plus importante que celle qu'elle est actuellement. La réponse est insuffisante. Madame Cohn-Mellier l'a d'ailleurs souligné, et Pierre Sélignon également. Je dois aussi indiquer, et je partage également votre sentiment, qu'on est dans une situation qui, par certains côtés, rappelle la guerre froide, et la paralysie du Conseil de sécurité a des conséquences directes sur un plan humanitaire, sur le terrain, puisque, comme du temps de la guerre froide, les agences onusiennes se trouvent en partie paralysées par les antagonismes entre puissances au sein du Conseil de sécurité. Ça les paralyse. Je vais en donner un ou deux exemples ensuite. Quant à leur dispositif sur le terrain, ça paralyse également quant au financement. Ça paralyse quant à l'accès aux populations. Il y a eu un épisode récent au Conseil de sécurité sur lequel je n'ai même pas insisté. Il y a une quinzaine de jours, le Conseil de sécurité n'a même pas été en mesure de voter une résolution qui lui était présentée, uniquement centrée sur les questions humanitaires. Et les conséquences pour les organisations, les agences des Nations Unies, elles sont que pour accéder aux populations, elles ne peuvent faire, comme l'on dit dans notre jargon, que du cross-line, c'est-à-dire le franchissement des lignes de séparation à l'intérieur de la Syrie entre les forces gouvernementales et les forces rebelles. Elles ne peuvent pas faire ce qu'on appelle du cross-border, donc du transfrontière, puisque il y a un antagonisme entre les puissances de ce point de vue. Et un tout petit exemple, non seulement c'est dans le concret, mais c'est également dans les textes même des Nations Unies, puisque le OCHA, qui est l'office du coordinateur des Nations Unies pour les affaires humanitaires, donc qui est l'administration du secrétaire général adjoint pour les affaires humanitaires, en est à son second plan, qu'on appelle, vous savez, le jargon aussi des Nations Unies, on a toujours des abréviations, donc ça s'appelle SHARP, ce qui veut dire Syria Humanitarian Assistance Response Plan, et ce response plan et ne prévoit pas le cross-border, puisque il n'y a pas d'accord au sein du Conseil de sécurité là-dessus. Accessoirement, naturellement, le gouvernement syrien s'y oppose farouchement. Ce qui veut dire que, à partir des zones contrôlées par le gouvernement, il faut franchir des lignes avec tout ce que ça implique, quand on arrive à les franchir, avec donc des approvisionnements limités, avec des autorisations qui souvent ne sont pas accordées, et même quand elles le sont, avec ça ne signifie pas que sur le terrain, aux divers barrages, on laissera passer les convois. Le comité international de la Croix-Rouge, pour diverses raisons, et qui tiennent à la fois sa doctrine en matière d'aide humanitaire en situation de conflit armé, et aussi au fonctionnement même de ce qu'est le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, travaille avec le Croissant-Rouge arabe syrien, qui était évoqué tout à l'heure par Pierre, et qui est une structure qui, en dépit du courage dont témoignent un certain nombre de ces volontaires et un certain nombre de ses dirigeants, est, dans un régime comme la Syrie, pas dépourvu de liens avec les autorités gouvernementales, et les ONG basées à Damas, de la même manière, donc, n'ont pas accès aux populations des zones rebelles. Donc, l'autre alternative, et ce qui est mis en œuvre par un certain nombre d'ONG, c'est ce qu'on appelle le cross-border, et Pierre Salignan l'a évoqué, c'est-à-dire la présence à travers les frontières, en passant les frontières, dans les zones rebelles. Avec d'extrêmes difficultés, telles qu'elles ont été déjà évoquées, avec des partenariats et des liens, et Mme Khodmeni l'a mentionné, le courage de la population syrienne, ce sont d'abord les Syriens qui assurent l'aide, et même en termes de financement des données qui proviennent pour partie de l'opposition syrienne, mais qui semblent dans l'ensemble fiables, montraient au printemps dernier que à peu près 80% des financements même de l'aide apportée aux populations dans les zones rebelles venaient de la diaspora syrienne, venaient de l'opposition syrienne, venaient de diverses sources et ne venaient pas de l'aide internationale. Il y a d'extrêmes difficultés d'accès, on en parlera peut-être tout à l'heure. Pour l'essentiel, ce travail transfrontalier se fait à partir de la Turquie, qui à la fois l'autorise et en même temps le restreint pour un certain nombre d'organisations. Il se fait en petite partie à partir de l'Irak, et, disons, difficilement par euphémisme, à partir de la Jordanie, sur les zones donc proches de la frontière jordanienne, qui sont plus ou moins contrôlées par des groupes rebelles. Il se fait avec d'extrêmes difficultés sur place, à la hausse, parce qu'il y a des combats, parce que, cela a été dit, les forces gouvernementales ne respectent pas la distinction entre civils et combattants, et évidemment pas non plus la présence des organisations humanitaires. Et il se fait, il faut le dire aussi, avec d'extrêmes difficultés, car l'atomisation d'un certain nombre de groupes rebelles, les différents, la concurrence entre les diverses milices, les oppositions entre diverses milices, rend les conditions de travail extraordinairement complexes sur le terrain. Et l'ambassadeur Éric Chevalier, je pense, nous en dira plus sur ce plan, mais ça rend le travail extrêmement difficile et ça rend les conditions de sécurité très difficiles. Il y a plusieurs personnels d'organisations humanitaires, cela a été évoqué tout à l'heure, dont on est sans nouvelles actuellement, et qui étaient dans ces zones-là et qui ont disparu. Le degré même de l'aide, je le disais, n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Et avec l'installation du conflit dans la durée, cette situation est inacceptable. Elle est inacceptable et elle demande une réaction de la part des organisations humanitaires plus forte qu'elle ne l'est actuellement. Elles font beaucoup de choses, cela a déjà été dit. Elles essayent d'en faire beaucoup, mais elles ont d'extrêmes difficultés à finalement elles-mêmes appréhender la dimension de la crise et à trouver les moyens de réponse. Alors, on peut évoquer quatre axes principaux sur lesquels, au minimum, les efforts pourraient porter, qui interpellent les organisations humanitaires, mais interpellent aussi la communauté internationale et interpellent un certain nombre d'États. Le premier, c'est le maximum d'appui diplomatique. Du côté du gouvernement français, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, et d'un certain nombre d'autres gouvernements, mais nous en discutions tout à l'heure avec l'ambassadeur Fallier. Il n'y a pas, pour l'instant, par exemple, de représentants de l'Union européenne pour la CIO, pour l'aide humanitaire en Syrie. Il pourrait peut-être y en avoir un. En tout cas, le maximum d'appui diplomatique et de moyens financiers pour que les agences humanitaires et en premier lieu non gouvernementales puissent accéder avec une autonomie d'action suffisante, un minimum un degré de risque acceptable et une autorisation aussi à travers par les pays voisins de passage. Il est vain, à mon sens, d'espérer obtenir de la part des autorités actuelles de Damas un accès aux zones à travers les zones gouvernementales vers les zones rebelles. Donc il faut passer par les pays voisins. Et de ce point de vue, je dois vous dire que la situation n'est pas brillante non plus en termes de financement. Pour les raisons que j'ai déjà évoquées, les Nations Unies sont dans une situation de blocage. La situation n'est guère meilleure du côté de l'Union européenne, qui est, vous le savez peut-être, le principal, de manière générale, le principal bailleur de fonds d'aide humanitaire, le principal financeur d'aide humanitaire dans le monde, au monde. Et de ce point de vue, la direction générale ECHO, qui est la direction générale aide humanitaire et protection civile de la Commission européenne, elle ne refuse pas d'accorder des financements, mais elle est en partie aussi, sinon totalement paralysée, mais en tout cas, elle est sérieusement handicapée par les désaccords entre États membres, et qui font qu'elle a tendance à multiplier les demandes administratives, les demandes un peu bureaucratiques, alors que le principe de financement d'ECHO, c'est un déblocage de financement très rapide. Elle souhaite, pour les organisations qui passent par la Turquie, qu'elles soient dotées d'autorisation du gouvernement turc. Or, le gouvernement turc est, disons, assez sélectif pour attribuer ces autorisations. Par exemple, pour les organisations françaises, disons, il est encore plus sélectif. Et pour quelques autres également. Et ils sont effectivement, dans un grand embarras, et la Commission européenne n'est pas à la hauteur de la réponse, ne serait-ce qu'en termes de financement. Donc une bonne partie des organisations qui aujourd'hui interviennent à l'intérieur de la Syrie à travers les frontières le font sur fonds propres. Or, ces fonds propres, ils ont tendance à s'épuiser. Et malheureusement, Madame Koudmani l'évoquait tout à l'heure, malheureusement, pour le moment, la mobilisation des opinions publiques, qui pourrait se traduire par des collectes de fonds, est faible. Les tests qui ont été faits dans plusieurs pays, dont la France, ne sont pas très encourageants de ce point de vue. Je vous en citerai un seul. à la suite effectivement de l'article qu'évoquait tout à l'heure Pierre, la Fondation de France, qui est un grand collecteur de fonds en France, a fait un test. Et je n'ose pas vous citer les montants qu'elle a recueillis. Et donc la Fondation de France a ouvert un fonds pour financer effectivement et accorder les financements aux ONG intervenant en intérieur de la Syrie, mais sur fonds propres. Il y a donc une extrême difficulté à cette collecte de fonds. Je ne sais pas, madame, si c'est parce qu'on ne met pas suffisamment en avant les images. Je crois que les images, il y en a beaucoup. Je crois que c'est pour diverses raisons, et notamment des raisons qui tiennent au fait, en tout cas c'est mon analyse, que ce conflit est généralement présenté sous ses angles politiques, militaires et diplomatiques, et pas du tout, très insuffisamment, sous l'angle des souffrances humaines et sous l'angle des souffrances de la population et sous l'angle donc de l'aide humanitaire. On parle beaucoup du danger djihadiste, on parle beaucoup d'usage des armes, on parle beaucoup des armes chimiques, et finalement, on parle peu, sauf nous ici, je crois, aujourd'hui, de la situation des populations. Pour ne pas être trop long, je voudrais maintenant, puisque j'ai évoqué la situation de la Syrie, parler d'une situation à l'extérieur de la Syrie, que je vais terminer. À l'extérieur de la Syrie, qui est la question de l'accueil des réfugiés. Je l'ai déjà évoqué dans les pays voisins. Là aussi, la réponse n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, compte tenu du flux des réfugiés, en dépit des efforts considérables qui sont faits par les agences humanitaires, non gouvernementales et onusiennes. Et de ce point de vue, il faut absolument pouvoir à la fois mieux accueillir les réfugiés. On constate des phénomènes actuellement en Jordanie de réfugiés qui repartent en Syrie, car la situation dans les camps est telle qu'ils finalement préfèrent ne pas s'y demeurer et rentrer en Syrie en dépit des risques que cela peut présenter. Il y a un pays dont on ne parle pas et qui a une frontière avec la Syrie, c'est Israël, qui pour l'instant n'a accueilli aucun réfugié. Et le gouvernement de Jérusalem, à mon sens, ne pourra pas très longtemps encore, si la situation se poursuit, et il y a toute raison qu'elle se poursuive malheureusement, se dérober à ses obligations internationales. Et sur une base du principe d'humanité, qui est un des fondements de l'action militaire, refuser son entrée sur son sol, sur le Golan, à ceux d'Israël qui voudront franchir cette frontière. Là aussi, il pourrait y avoir quelques pressions diplomatiques qui pourraient ne pas être totalement inutiles. Je terminerai juste en revenant sur deux points. J'ai parlé des moyens financiers, je n'insiste pas. Mais on a aussi, ce qui n'est pas à la hauteur dans cette situation, à l'intérieur du système des Nations Unies, même des rivalités bureaucratiques quant à la qualification de la crise, puisque deux des grandes agences s'opposent sur la qualification, entre le Haut Commissariat pour les réfugiés qui entend conserver le leadership et qui parle donc de crise des réfugiés, et OCHA et d'autres agences qui considèrent que c'est une crise humanitaire. Ça a des conséquences très directes, non seulement en termes d'action sur le terrain, mais en termes de financement. Il n'y a même pas, pour l'instant, alors que ça fait des mois qu'on l'attend, de coordinateur des Nations Unies sur le terrain pour les affaires humanitaires en Jordanie ou ailleurs. Fort heureusement, les non-gouvernementaux, eux, en ont désigné un. Ils n'ont pas attendu les Nations Unies. Et je crois que, de ce point de vue, les acteurs de l'aide ont aussi des responsabilités. C'est d'abord, effectivement, je crois, dans cette situation bloquée, aux non-gouvernementaux de maximiser leurs efforts. Mais il faut aller plus loin. C'est absolument nécessaire, indispensable. Et sinon, je crains que la catastrophe humanitaire, déjà largement en cours, ne succède un chaos humanitaire également, doublé de ce qui sera un scandale moral, même si les premiers responsables n'en seront pas les humanitaires, mais les politiques. Les humanitaires ont tout de même une responsabilité, ils doivent l'assumer et ils doivent tout faire pour qu'il n'y ait pas un chaos humanitaire et que cette catastrophe humanitaire soit appréhendée et soit prise en compte, prise en charge, pour les civils syriens dans des conditions meilleures qu'elles ne l'êtent actuellement, même si, encore une fois, leur responsabilité n'est peut-être pas la première. Ils ont une responsabilité en tant qu'acteurs, car ensuite, et je terminerai là-dessus, nous avons une grande habitude, une grande coutume dans les milieux humanitaires de faire des exercices rétrospectifs d'évaluation de la manière dont les agences ont géré la crise et dont elles ont réagi. Et je crains que nous ayons beaucoup à dire, et beaucoup à dire nous-mêmes, de la manière dont nous aurons réagi si, effectivement, nous ne parvenons pas à élever le degré de réponse. Je vous remercie.